Continuons ce matin de réfléchir à la mission de l'Église à partir du livre des Actes. Et vous vous rappelez peut-être l'image de ce voilier que nous avions utilisé il y a quelques semaines, un voilier sans doute plus en sécurité quand il est sur la plage, mais qui n'a pas été conçu pour ça. Et il en est un peu de même pour l'Église, l'Église et sa mission. Une Église qui ne répond pas à sa mission n'est pas vraiment une Église. Et parfois, en voulant répondre à sa mission, on est confronté à des problèmes auxquels on n'aurait pas été confronté si on n'y avait pas répondu. Et c'est un peu tout le sujet de ce matin. Ce matin, avec Acte 15, nous abordons des situations qui ont tendance à nous décourager. À nous décourager notamment dans l'idée d'accomplir cette mission. Les problèmes internes à l'Église. L'organisation, les relations, les divergences de points de vue. On est souvent découragé en pensant à tous ces problèmes à gérer parce qu'on a l'impression qu'une telle perte d'énergie nous empêche de nous consacrer pleinement à ce pourquoi l'Église existe. Témoigner de son espérance dans un monde plongé dans l'obscurité. J'espère que le texte de ce matin va nous aider un peu à rééquilibrer cette vision en la matière. La priorité de l'Évangile ne signifie pas qu'il ne devrait pas y avoir divergence, parfois, entre nous. Elle ne signifie pas que c'est une perte de temps quand nous essayons de les régler. Et je vous invite donc justement à essayer de réfléchir à une gestion saine de ces divergences à partir d'Acte 15. Nous sommes toujours dans cette prédication suivie dans le livre des Actes. Et c'est un passage qu'on a déjà médité pour plusieurs dans les groupes de maison. Alors je ne vais pas le lire en entier, et je vais plutôt me consacrer sur la fin. Mais on va quand même, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire les autres passages, lire par partie donc le livre des Actes au chapitre 15. Je ferai quelques coupures dans la lecture. Acte 15, et on commence donc par les versets 1 à 6. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant « Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu, et tous les frères en eurent beaucoup de joie. Alors, arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables. Ils leur rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. Il y a donc discussion, exposé d'arguments, réflexion, et on arrive à la conclusion de toute cette discussion à partir du verset 22. Alors les apôtres et les responsables avec toute l'Église décidèrent de choisir parmi eux quelques délégués et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent donc Jude, surnommé Barsabas, et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi les frères. Voici la lettre qu'ils leur remirent. Les apôtres et les responsables de l'Église adressent leurs salutations aux frères d'origine païenne qui habitent Antioche, la Syrie et la Cilicie. Nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté le trouble parmi vous et vous ont désorienté par leurs paroles. Or, ils n'avaient reçu aucun mandat de notre part. C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos chers Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce que nous vous écrivons. Car il nous a semblé bon, au Saint-Esprit et à nous-mêmes, de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires. Ne consommez pas de viande provenant des sacrifices aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et gardez-vous de toute inconduite sexuelle. Si vous évitez tout cela, vous agirez bien. Recevez nos salutations les plus fraternelles. On laissa partir les délégués et ils se rendirent à Antioche. Ils réunirent l'ensemble des croyants et leur remirent la lettre. On la lut et tous se réjouirent de l'encouragement qu'ils s'y trouvaient. Et on poursuit avec les versets 36 à 41, tout à la fin donc de ce chapitre 15, avec une autre situation. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite au Seigneur, aux frères, pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Jusque-là, la parole ce matin. Un chapitre qui nous présente donc deux situations de divergence, deux situations de désaccord. La première, on pourrait dire qu'elle est d'ordre théologique. Elle aboutira à un consensus de l'Église. La seconde est plus d'ordre pratique, relationnel. Elle se terminera par une séparation. Pourtant, nous allons voir que l'une et l'autre nous donnent des repères pour la gestion de nos désaccords. Et je vous propose d'examiner la première, le désaccord à Antioche. Alors vous avez repéré la question posée, faut-il circoncire les nouveaux convertis ? À Antioche, de nombreux païens, donc des non-juifs, ont accepté le salut en Jésus-Christ. Ils ont probablement été baptisés et la question se pose, maintenant faut-il les circoncire pour qu'ils fassent pleinement partie du peuple de Dieu ? Faut-il aller jusqu'au bout de la démarche dans la vision juive ? Parce que, est-ce qu'ils sont réellement sauvés ? La circoncision, ce n'est pas juste l'opération chirurgicale. C'est aussi tout ce que cela implique. Le respect des lois de l'Ancien Testament, sur la purification, sur les sacrifices, sur les relations avec son prochain. Alors, je ne vais pas revenir sur tous ces détails, on les a déjà largement parcourus dans les groupes de maison ces derniers jours. Mais si jamais vous aimeriez les notes justement qui ont servi à ces groupes, vous pouvez me les demander. Mais on peut souligner quelques constats en rapport justement avec la gestion des désaccords. Premier constat, c'est que la réponse est donc sans appel. Le signe d'appartenance au peuple de Dieu n'est pas la circoncision, mais la foi en Jésus-Christ. Pas d'autre obligation, écrit les apôtres. Mais cela n'empêche pas des changements à adopter chez celui qui se convertit. Ces changements découlent de l'appartenance à Jésus-Christ et non de l'idée qu'il nous faut absolument obéir à toutes les prescriptions de la loi de Moïse pour être sauvé. Premier constat, sur un sujet de cette importance, il faut trancher. Pas de entre-deux. Ouais, peut-être bien qu'il y ait un peu de vrai d'un côté, un peu de vrai de l'autre. Les apôtres ont eu à trancher, c'était oui ou c'était non. En l'occurrence, il n'y avait pas, d'après ce qu'ils ont discerné, à circoncire les nouveaux convertis. Deuxième constat, il y a unanimité. Alors on s'est interrogé dans notre groupe ce que cela signifiait exactement cette unanimité. On n'est pas arrivé à une unanimité sur la conclusion. Mais toujours est-il que Luc, lui, souligne qu'il y a eu un élan vraiment commun dans la prise de décision au niveau des responsables et de l'Église. Il y a eu cette conviction que c'est le Saint-Esprit qui conduisait la réflexion et non pas les hommes. Troisième constat, la joie. tous se réjouir de l'encouragement qu'ils s'y trouvaient. Ça, c'est la réaction de l'église d'Antioche quand ils ont reçu la réponse de Jérusalem. À nos pourquoi nos relations sont si compliquées, à nos découragements épidermiques quand des divergences surgissent dans l'église, acte 15 apporte une réponse inattendue. On peut penser qu'en acte 15, il y a eu plus de joie à résoudre le problème que si le problème ne s'était pas posé. Étonnant, non ? Mais pour cela, bien sûr, quelques principes doivent être respectés. Et je vous propose, là aussi, assez succinctement, de garder trois principes qui ont permis, dans ce cas, de conserver l'unité. Premier principe, l'église d'Antioche a fait intervenir un tiers. Ils n'ont pas raisonné comme s'ils étaient tout seuls. Nous sommes l'église, on a des responsables, nous allons pouvoir prendre une décision. Non, les églises sont autonomes, mais sont aussi interdépendantes. Ce que fait l'une affecte l'autre. Et l'église d'Antioche va faire jouer à plein cette interdépendance en n'essayant pas de régler toute seule un problème qui aurait eu des conséquences bien plus larges que l'église d'Antioche. Elle ne prend pas le risque de se couper de l'église de Jérusalem par une décision qui l'isolerait. Elle demande de l'aide, sans doute aussi parce que l'église de Jérusalem est moins impliquée émotionnellement dans ce qui est en train de se passer. Premier principe, face à un désaccord important, il nous faut avoir cette lucidité. Mesurer d'une part l'impact du désaccord sur les autres, et puis peut-être demander de l'aide aussi à des personnes extérieures au problème. Deuxième principe, user de fermeté et de douceur. On a souligné que le problème posé à Antioche appelait une réponse tranchée. Pas de zone grise. La circoncision ne doit pas être imposée. Les troubles n'étaient pas justifiés. Mais on peut être ferme et doux à la fois. Et on peut dire que les apôtres ont cherché à faire preuve de pédagogie. Ils sont conscients que leur réponse pourrait troubler ceux qui auraient l'impression que la grâce rimerait avec laxisme. Ils ont donc souligné qu'il y avait quand même des conséquences bel et bien à la conversion et au fait de cette tournée vers Jésus-Christ. Ils ont précisé qu'il y a des comportements qui honorent Christ et d'autres pas. Ils ont anticipé les prochaines situations qui allaient peut-être découler de ce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas besoin de circoncire les nouveaux convertis. Comme les agapes entre juifs et non-juifs qui allaient faire éclater à plein les différences de comportement autour de la nourriture. C'est sans doute pour ça que les prescriptions sont autant tournées vers les viandes sacrifiées aux idoles, où on ne mange pas le sang avec la viande. La liberté des uns ne devait pas être vue comme une pierre d'achoppement par les autres. Deuxième donc principe, fermeté et douceur sont les deux pendants d'une décision qui va permettre d'aller de l'avant. Troisième principe, s'appuyer sur la souveraineté de Dieu. Paul et Barnabas sont convaincus, avant d'aller à Jérusalem, que la circoncision n'est pas nécessaire. Mais engager l'église d'Antioche dans cette voie l'aurait desservi, on vient de le souligner. Alors ils s'en remettent à l'avis d'autres pour cette question. Ah, ils ont quand même pris un certain risque, non ? S'ils n'avaient pas été d'accord avec eux, les apôtres, à Jérusalem. Et puis, on ne l'a pas vu dans la lecture de ce matin, mais si on lit l'ensemble du texte, on voit qu'en fait, ils jouent un tout petit rôle dans la prise de décision. Ils témoignent juste de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas cherché à faire intervenir le poids théologique de leurs réflexions. En se remettant aux autres, Paul et Barnabas s'en remettent, bien entendu, à Dieu. Ils savent qu'en définitive, ils peuvent lâcher prise sur cette divergence. Ne pas tout contrôler. Si cela vient de Dieu, d'une manière ou d'une autre, il permettra que la juste position triomphe. Quel fantastique épisode que la résolution de ce conflit d'Église. La controverse est réglée de manière efficace et rassembleuse. Un modèle du genre. On aimerait que toutes nos divergences terminent ainsi, n'est-ce pas ? Mais j'aime bien acte 15, parce qu'il y a la suite. plus étonnante, qui à première vue nous paraîtrait beaucoup moins glorieuse, mais qui nous aide aussi, je pense, à aborder nos divergences sous un angle différent. Parce qu'après la gestion exemplaire du désaccord d'Antioche, arrive un autre désaccord dont l'issue semble donc beaucoup moins satisfaisante. Paul et Barnabas s'opposent sur la manière de gérer le second voyage missionnaire. Je trouve vraiment l'enchaînement des deux épisodes savoureux. Paul et Barnabas ont semblé s'y unir, pour obtenir un consensus au sein de l'Église sur la question de la circoncision, et tout d'un coup, un différend qui semble pas si important va arrêter leur collaboration. Ils s'écharpent sur la légitimité d'emmener Marc dans la deuxième mouture de leur voyage missionnaire. Alors Marc, vous vous en souvenez, on en a déjà parlé en acte 13. C'est le stagiaire qui a accompagné Paul et Barnabas lors de leur premier voyage, mais qui a rebroussé chemin sans qu'on sache trop pourquoi. Alors, au vu de la réaction de Paul, a priori, tout n'était pas forcément justifié dans l'attitude de Marc à rebrousser chemin. Pas juste se dire, il était malade et il est rentré chez lui, quoi. Pourquoi Paul refuse-t-il d'emmener Marc à nouveau ? On ne peut qu'imaginer. Est-ce qu'il pense qu'il va les retarder dans cette mission ? Qu'il va être confronté à des choses qu'il ne va pas pouvoir supporter ? En tout cas, dans cette histoire, Paul ne veut pas prendre de risques. Il ne veut pas que les considérations de personne puissent, d'une manière ou d'une autre, rendre la mission moins efficace. Barnabas, lui, souhaite emmener Marc. Plusieurs raisons à cela. Déjà, Marc, c'est son cousin. Forcément, les relations familiales, ça joue. Et puis, ça correspond à l'approche du ministère de Barnabas. Vous savez que Barnabas, cela veut dire « fils d'exhortation ». Et oui, à plusieurs reprises, on voit que ce qui marque le ministère de Barnabas, c'est l'encouragement des personnes. Barnabas fait passer en priorité Marc avant l'idée de « est-ce qu'il va être un frein pour ce qui nous attend ?» Voilà donc des complices qui ont servi le Seigneur pendant plusieurs années, qui ont traversé ensemble la persécution, qui ont dû faire face à ce qui est parfois le plus douloureux, les secousses internes à l'Église, et on vient d'en voir un épisode juste avant. Voilà des collaborateurs de l'Évangile, probablement des amis, faire face à un conflit qui semble pas si important que ça, pour lequel on se dit forcément ils vont trouver une solution, mais qui décide de ne pas continuer la route ensemble. Est-ce une défaite pour l'Évangile ? Des situations comme ça, ça a tendance à nous décourager, à nous attrister. J'ai même un dossier à charge contre Paul. Je recommande à Évodie et à Saint-Tiche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre selon le Seigneur. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Paul, tu fais quoi là ? C'est toi qui as écrit ces passages. Bon, après, hein. Il a écrit Philippiens après acte 15. Mais bon, quand même, ça devait trotter d'une manière ou d'une autre dans sa tête à ce moment-là de son ministère. Pourquoi n'a-t-il pas appliqué ce que nous lisons là à la brouille avec Barnabas ? J'aimerais faire trois remarques pour tenter un peu d'éclairer cela. La première, c'est que Barnabas et Paul sont des pêcheurs comme nous. Ce ne serait pas si étonnant que dans une situation, ils n'aient pas réussi à pleinement vivre la pleine réalité de la nouvelle vie en Christ. C'est arrivé à Pierre, dans une autre circonstance, un peu liée à des sujets similaires à ceux que nous venons d'étudier. Et pour autant, cette affirmation qui est juste, hein, Paul et Barnabas sont pécheurs, ils ont probablement péché à d'autres moments de leur vie, dans ce cas présent, moi, ne me satisfait pas pleinement. J'aurais l'impression que s'il y avait question de réconciliation, de pardon au centre du sujet. Luc l'aurait mentionné d'une manière ou d'une autre pour souligner justement que le pardon, dans ces cas-là, doit dépasser nos différences. Alors, ça n'engage que moi, hein. Mais en tout cas, il n'y a pas de trace de moment où Paul et Barnabas se tombent dans les bras en se disant « on n'a pas fait ce qu'il fallait » ou on s'est blessé l'un l'autre. D'ailleurs, le texte que nous venons de lire ne parle pas vraiment de comportement inapproprié. Il est question de vif désaccord, littéralement de dissentiment qui va les pousser à la séparation. Alors, dissentiment en français, j'ai regardé dans le Petit Robert, cela signifie différence dans la manière de juger, de voir, jusque-là ça va, qui crée des heurts. Ah, alors est-ce qu'il y a eu heurts entre Barnabas et Paul? C'est ça la question. Et avec le peu d'éléments qu'on a dans le texte, on ne peut pas dire grand-chose. La seule chose que l'on peut faire, c'est regarder ce qui s'est passé ensuite. Et à première vue, comme je viens de dire, on peut dire qu'il ne s'est rien passé. Chacun va aller de son côté, et on n'entendra plus parler de Barnabas dans le livre des Actes, et on n'entendra plus parler, en tout cas, d'association pour l'Évangile entre Paul et Barnabas. Le texte précise juste que Paul est parti avec le consentement de l'église d'Antioche, mais probablement parce que la suite du livre des Actes va se consacrer à la mission de Paul et qu'il ne faudrait pas que Paul apparaisse aux yeux des chrétiens comme un franc-tireur, celui qui n'en fait qu'à sa tête dans un conflit et qui part tout seul. Cela ne signifie pas que Barnabas et Marc n'ont pas eu aussi l'appui de l'église d'Antioche pour leur propre mission. Une remarque qui montre, à mon avis, que Paul et Barnabas, malgré la séparation, ont continué d'avoir un profond respect l'un pour l'autre, on la trouve dans une toute petite phrase, très discrète, dans la première épître aux Corinthiens. Une remarque de Paul, qui pourrait passer inaperçue, « Ou bien, Barnabas et moi-même, serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain ?» Alors là, on est quelques années après l'épisode dont on vient de parler, et Paul est attaqué dans son ministère. Il doit défendre son apostolat devant les Corinthiens. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là, il est en train de dire que, alors c'est, en tout cas, c'est ce qu'il a ressenti, les Corinthiens dénigrent son ministère parce qu'il n'est pas à plein temps pour l'enseignement de la parole de Dieu. Il travaille à côté. Et d'après les Corinthiens, ben, ça le rend inférieur par rapport aux autres enseignants qui, eux, peuvent vivre de leur enseignement. Et dans ce passage, que fait Paul? Il s'associe à Barnabas pour montrer que d'autres aussi font comme lui, sans que ce soit une raison pour déconsidérer leur ministère. Il ne me semble pas qu'on prendrait en exemple quelqu'un avec qui on se soit dissocié, avec qui on est fâché. Alors, peut-être que dans Acte 15, il n'y a pas eu vraiment amertume entre Paul et Barnabas. Qu'il n'y a pas vraiment eu situation de péché. Et dernière remarque, sans parler de péché, pas sûr non plus que dans cette situation, on puisse dire « l'un a eu raison et l'autre a eu tort ». Qu'il fallait privilégier Marc ou qu'il fallait privilégier la mission. Aussi bien pour Paul que pour Barnabas, tout le reste du Nouveau Testament témoigne que la main de Dieu les accompagne. Pour Paul, c'est assez évident. Le livre des Actes témoigne que la mission d'apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre a réussi. Et pour Barnabas, est-ce qu'on peut l'affirmer? Bien, j'aurais aussi envie de répondre oui. L'opération réhabilitation de Marc a fonctionné. Plusieurs versets dans le Nouveau Testament témoignent que Marc a joué un rôle premier dans l'annonce de l'Évangile parmi les premiers chrétiens. Et qu'il a même joué un rôle premier dans les équipes qui ont accompagné Paul plus tard dans le ministère. Le stagiaire écarté est revenu en grâce et a fait ses preuves pour à nouveau être associé avec Paul. Et puis Marc, a priori, c'est celui qui a écrit le deuxième évangile que nous lisons. Pas mal quand même, hein, pour quelqu'un qui aurait été justement mis de côté. Il me semble que ce passage nous montre que les désaccords ne sont pas toujours à voir comme une défaite. J'ai l'impression que Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Pour celui qui fait de la mission de l'Église au sens large sa priorité, nos divergences de point de vue, si nous apprenons à bien les gérer, peuvent trouver leur place dans l'accomplissement du plan de Dieu. Alors, quelle grande leçon garder de ce passage ? J'en propose deux. La première, bien discerner les situations. Toutes les situations ne se valent pas. Nous devons discerner quand il est essentiel que l'unité de l'Église soit manifestée parce qu'elle est menacée. Et ça, c'est la première partie, le premier volet de ce qu'on a médité dans Acte 15. Mais nous devons aussi reconnaître qu'il y a des situations où les désaccords sont possibles. Et là, c'est le deuxième volet d'Acte 15. Dans le premier cas, l'unité était non négociable, parce qu'il en allait de la doctrine et de la théologie pour la suite, et pour nous en particulier. Que faut-il faire ? Dans le deuxième cas, vouloir maintenir coûte que coûte une association pourrait en fait avoir un effet contraire. Perdre de l'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure, devoir s'ajuster en permanence lorsqu'on veut justement faire de la mission notre priorité, cela peut être un frein. Et il me semble qu'il y a de cela dans la séparation entre Paul et Barnabas. On peut dire que Paul et Barnabas ont des profils et des ministères complémentaires. Pendant toute une période, ils ont eu à apprendre à le vivre ensemble. Et ça, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre. C'est pas dès que ça fonctionne pas, ok, chacun va de son côté. Mais ils ont eu aussi une période où ils ont dû apprendre à le vivre de manière séparément. Et là aussi, j'ai envie de dire, il y a des défis. Reconnaître qu'il faut des Barnabas et des Paul dans la mission de Dieu pour qu'elle s'accomplisse. Reconnaître que si tout le monde fonctionnait comme Nicolas, on n'irait pas bien loin. Et qu'il faut des gens qui fonctionnent différemment, avec des parties parfois, qui ne vont pas me convenir à moi, personnellement. Je crois qu'il faut nous apprendre à vivre ces divergences de manière différente, apprendre à ne pas en souffrir inutilement, apprendre à les valoriser parfois aussi. Tel type de leadership, tel type de piété, tel type de fonctionnement, ils ne nous conviennent pas. Ok, soit. Mais est-ce que c'est ça la bonne question ? Alors parfois, il y a des abus à dénoncer. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste dire bon. Mais ce matin, je pense qu'on est confronté à l'autre facette. Apprendre à glorifier Dieu pour cette manière si sage qu'il a de composer avec nos différences, afin qu'en lui, elle soit une force. Alors, comment on fait ça ? Comment faire pour justement discerner les situations ? C'est pas évident. Sans prétendre qu'un seul critère peut résoudre toutes les questions épineuses à lui tout seul, il me semble quand même qu'Acte 15 en propose un. Quand nous sommes dans des zones grises, où on ne sait pas toujours quoi penser, quoi faire, quelle décision prendre. Ce critère, c'est la priorité de l'Évangile. C'est la priorité de l'Évangile qui a conduit l'Église d'Antioche à affirmer qu'il ne fallait pas circoncire les non-juifs. C'est la priorité de l'Évangile qui a conduit aussi Paul et Barnabas à un moment donné de se séparer. Parce que chacun avait une mission qu'il discernait comme différente. Toujours au service de l'Évangile, pas pour leur propre satisfaction personnelle, pas pour faire passer leur intérêt avant celui de l'autre, pas pour montrer qu'ils avaient raison vis-à-vis de l'autre. C'est une question utile à se poser. Est-ce bien la priorité de l'Évangile qui me pousse dans telle direction, qui me pousse à agir de telle manière, à avoir cette réaction ? en gardant les yeux fixés sur la priorité de l'Évangile, il est probable que nous découvrirons un chemin nouveau dans la gestion de nos divergences. Un chemin qui nous pousse à conserver l'unité, tel que nous l'avons vu dans la première partie de l'acte 15, mais un chemin qui nous pousse aussi à accepter parfois nos désaccords, en les gérant avec sagesse et en les laissant transformer dans les mains de notre Dieu, en une puissante bénédiction pour la mission qu'il veut accomplir. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant toi avec toutes les fragilités de qui nous sommes, les défauts de nos caractères, les péchés parfois dans nos vies. Nous ne voulons pas que ce que nous venons de dire ce matin par rapport à ces questions de divergence puisse être une excuse pour ne pas voir ce que tu veux nous montrer dans nos vies. Mais nous voulons aussi ouvrir notre palette et nous rappeler qu'en effet, la priorité, c'est que tu accomplisses ta mission. Et que parfois, nous devons affronter des chemins peut-être un peu différents que ce que l'on aurait imaginé. Alors Seigneur, je te prie de nous conduire sur ces voies. Je te prie de nous amener à comprendre ce que cela veut dire que de faire passer l'Évangile en priorité dans nos vies. Je te prie chacun, Seigneur, que nous puissions nous examiner pour nous placer à ton service et voir de quelle manière tu veux continuer de nous utiliser pour que ta mission puisse s'accomplir. En ton nom, Seigneur. Amen.